Bonjour à toutes et tous. Donc je vais vous parler aujourd'hui du virus de l'hépatite E. Un petit peu, alors je ne vais pas trop vous bassiner, vous verrez avec les problèmes techniques, hein, on va faire un petit peu plus d'épidémiologie de pourquoi finalement on hésite encore à passer sur un dépistage systématique, en particulier en France, mais aussi ailleurs. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de l'historique et de la maladie, hein, parce qu'on ne peut pas s'en affranchir pour mieux comprendre aussi le pourquoi des hésitations. On fera un petit point épidémiologique sur la France et sur les autres pays, et le problème du VHE et de la transfusion. Donc le virus de l'hépatite E, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un virus émergent. Hein, on connaît le virus depuis un certain nombre d'années, on considère toujours, on fait un petit raccourci en disant que c'est un virus émergent. Ce n'est pas un virus émergent, c'est un virus qu'on connaît mieux. Donc juste, je ne vais pas raconter le calendrier grec, mais juste pour vous dire qu'on avait déjà au Cachemire en 1978, on avait déjà donc, mis en évidence une épidémie, donc probablement l'hépatite E. Ce virus est également probablement responsable des hépatites inexpliquées en Afghanistan, et le génome donc a été enfin découvert et clonné dans les années 90. On a également en 97 découvert donc, aux États-Unis le VHE porcin, et on a décrit donc, le premier cas autochtone chez l'homme. Il faut savoir que le VHE, c'est la principale cause d'hépatite dans les pays donc, sous-développés ou en voie de développement, en particulier en Asie et en Afrique. Donc la distribution mondiale maintenant du VHE est bien connue et reconnue, mais par contre, on peut verrer entre les modes de transmission et les formes cliniques qui vont être différentes en fonction des pays et des zones géographiques. Donc, juste rapidement, donc, le VHE donc, se présente comme une petite particule sphérique, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un virus non enveloppé, et qui est un virus ARN, et donc qui dit virus non enveloppé, c'est un virus qui, du coup, est assez résistant dans le milieu extérieur. Et donc il est sensible à la chaleur, mais il est résistant sur les procédés d'inactivation type solvant émergent. Donc je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas forcément familiarisés ou qui n'ont pas connu ce type de produit, le solvant émergent, c'est ce qu'on utilisait pour inactiver à l'époque le plasma SD. Et donc ce mode d'inactivation virale, en fait, se base sur la dénaturation de l'enveloppe du virus. Donc, les virus non enveloppés ne sont pas sensibles à ce type donc, de procédé d'inactivation. On estime à peu près qu'il y a 20 millions de cas d'infection à VHE et plus de 3,3 millions de cas aigus. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'il y a 4 génotypes. Je ne vous ai pas détaillé également les sous-types. Il y a 4 génotypes qui sont le génotype 1, 2, 3, 4 et un seul sérotype connu, c'est-à-dire qu'en sérologie, on n'est pas en évidence les différents génotypes, on a qu'un seul sérotype qui est mis en évidence. Les génotypes 1 et 2, donc c'est uniquement chez l'être humain. Par contre, les génotypes 3 et 4, c'est les génotypes mis en évidence chez l'animal, qui se propagent chez l'animal, en particulier donc, les porcs, les ouvriers, les lins, sans provoquer de maladie et qui peuvent occasionnellement donc, toucher l'être humain, et vous verrez comment. Donc, au niveau de la répartition géographique mondiale, donc, vous voyez, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, en fonction de la répartition géographique, on n'a pas le même génotype. Donc, de manière synthétique, hein, le génotype 3 donc, touche essentiellement les pays qui sont développés, ce qu'on appelle les pays du Nord, et par contre, les génotypes 1 et 2 sont présents préférentiellement sur les pays en voie de développement. Et donc, on schématise un petit peu l'épidémiologie ainsi, c'est-à-dire que les génotypes 1 et 2, ce sont les pays où, effectivement, la contamination se fait essentiellement par l'eau, puisque c'est un problème d'eau contaminée, et les génotypes 3 et 4, donc, sont dans les pays qui sont approvisionnés donc, en eau potable, et donc la transmission ne se fera pas préférentiellement par l'eau potable. Alors, la transmission, donc là, vous avez un schéma global de comment se passe effectivement la transmission. Donc, la transmission, il faut savoir que le réservoir, c'est une hépatite E, c'est une zoonose. Hein, donc, la multiplication se fait donc, chez les animaux, en particulier dans les pays développés. Et donc, vous comprenez bien, c'est que les animaux peuvent contaminer l'eau et de ce fait contaminer les cultures. Potentiellement, et ça, c'est pas encore vraiment bien acté, bien défini, les coquillages, des coquillages d'eau douce. On est peu touché chez nous par ce type de contamination par voie oro fécale. Et bien sûr, une transmission par voie sanguine, puisque le virus, effectivement, se multiplie, la virus est présent dans le sang et peut contaminer l'homme par voie sanguine. Donc, la transmission, elle est essentiellement oro fécale, pour être l'hygiène liée effectivement à une eau contaminée, ou une ingestion de viande mal cuite, donc en particulier les porcs, les sangliers, les dindes. On a bien sûr évidemment décrit des transfusions avérées de produits par des produits sanguins, et il y a également des transmissions mère enfant au cours de la grossesse, et ça on va le voir je pense sur la diapositive suivante qui synthétise un petit peu les différences en fonction du nord et du sud. Les transmissions mère enfant sont surtout présentes sur les pays en voie de développement et inexistantes sur les pays du nord. Donc là vous voyez, vous avez une petite synthèse d'un petit peu schématique de l'hépatite E en fonction du nord et du sud. Alors, on n'est pas tous égaux, hein. Pour une fois, là, les femmes, on est un petit peu favorisées, c'est que les hommes, pour une raison inexpliquée, sont plus touchés que les femmes. Vous voyez aussi, sur les pays en voie de développement, les individus sont plus jeunes. Alors, effectivement, sur les pays du nord, c'est surtout des personnes qui ont plus de 55 ans. Les génotypes, comme je vous disais, génotype 1 et 2 sur les pays en voie de développement, génotype 3 et 4 sur les pays développés. Et les modes de transmission qui sont donc essentiellement par l'eau contaminée, alors que dans les pays développés, la transmission est essentiellement alimentaire et à moindre degré moindre la transfusion. Et dans la symptomatologie aussi, c'est différent, c'est-à-dire qu'en fait, sur les pays en voie de développement avec ces génotypes-là, on a une symptomatologie qui est importante, l'hépatite E, avec des hépatites fulminantes et une mortalité élevée. Alors que dans les pays du Nord, vous verrez un petit peu plus loin, on a des formes asymptomatiques qui sont très importantes, mais par contre, on peut avoir des symptomatologies plus conséquentes chez des sujets en particulier avec des hépatopathies, des maladies du foie sous-jacentes, et également chez les immunosupprimés, qui sont souvent donc les gens qui ont été transplantés en organes, ou des maladies hématologiques suite aux chimiothérapies, et également sur les VIH. Alors, les formes asymptomatiques, comme je vous le disais, donc ça représente, en fonction des études, entre 67 et 98% des cas. Donc, c'est, vous comprenez tout de suite la problématique, parce que forcément, pour nous, en transfusion, chez les donneurs, forcément, l'entretien médical ne servira pas à grand-chose pour ce virus-là. Et en moyenne, après une incubation de 2 à 8 semaines, donc 40 jours en moyenne, on a quand il y a une symptomatologie, dans 80% cette symptomatologie est assez classique d'une hépatite, par exemple type d'hépatite A qui est aussi à transmission orofécale, donc avec des fatigues, vomissements, un ulcère, et on peut effectivement constater des formes sévères, comme je vous le disais, chez des sujets donc, qui sont porteurs d'une maladie parfois chronique et chez les immunosupprimés. Et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, les femmes enceintes sont touchées surtout dans les pays en voie de développement. Les traitements de l'hépatite E, donc c'est des antiviraux, c'est la ribavirine, c'est la baisse des immunosuppresseurs quand on peut, parce que vous imaginez bien quelqu'un qui a une transplantation de foie, de cœur, de poumon, on ne peut pas arrêter les immunosuppresseurs comme ça, c'est des traitements symptomatiques. Il faut noter tout de même qu'il y a un traitement, qu'il y a un vaccin recombinant en Chine qui est homologué depuis 2011, mais qui n'est pas homologué ailleurs, l'innocuité n'a pas été prouvée. Mais donc ce vaccin existe. Au niveau du diagnostic, donc le diagnostic chez un patient repose essentiellement sur la recherche des anticorps spécifiques, hein, VIH, IgM et IgG, mais également sur la détection du génome viral ou de l'ARN, qu'on va amplifier, dans le sang et dans les selles. Parce que je vous rappelle quand même que c'est un virus qui est entérique, donc il y a un passage du virus également dans les selles. Donc là, vous avez les différentes cinétiques des anticorps et de la virémie. Donc la virémie, donc ce qui nous intéresse pour nous, c'est que la virémie est en moyenne de 4 à 6 semaines, mais elle peut également être aller jusqu'à 8 semaines, donc effectivement, où un donneur peut être potentiellement infectieux. J'ai laissé ce petit graphe aussi pour aussi sur la question qu'on pourrait se poser également avec pourquoi on ne met pas en place le dosage des alates. Transaminase en transfusion, parce qu'il y a des nations jeunes parmi vous, mais il fut un temps où pour les hépatites, on a un diagnostic indirect avec les transaminases. Mais les transaminases, c'était un paramètre biologique qui bouge indépendamment des maladies hépatiques. Dès que vous mangez un petit peu trop, dès que vous prenez un bon apéro bien serré, vous avez vos transats qui vont augmenter. Donc c'est très peu spécifique. Donc on a détruit beaucoup de produits avec ces transaminases suite à l'arrivée des tests en QPD. Donc on a arrêté de rechercher ce marqueur. Et là, on voit qu'également, les transaminases ne serviraient pas à grand-chose parce que les transaminases souvent augmentent après la virée. Donc, en France, au niveau de l'épidémiologie, donc il y a un article intéressant qui est en plus en langue française que je conseille sur les bulletins d'épidémiologie de fin 2018. Donc, effectivement, il y a une surveillance de l'hépatite E en France qui synthétise un petit peu donc l'évolution de l'extension du virus dans notre population. Donc, on peut voir qu'effectivement, ça peut être assez inquiétant. On voit qu'on a une augmentation exponentielle, bien entendu, du nombre de cas testés, mais du nombre de cas trouvés. Forcément, plus on teste, hein, plus on cherche, plus on trouve. Donc, effectivement, on pourrait dire que le virus se propage, mais c'est surtout aussi parce que c'est une maladie qui est mieux connue, c'est des tests diagnostiques qui sont de plus en plus performants. Donc, ça explique aussi cette augmentation exponentielle qui confirme bien que le virus circule bien chez nous. Et qu'aujourd'hui, on ne peut plus considérer comme ce qu'on pensait un petit peu dans les années 2000, on disait, oui, enfin, le virus de l'hépatite E, c'est le virus des pays en voie de développement, c'est le virus d'importation. Non, le virus circule bien chez nous, et on voit bien que les cas autochtones restent stables depuis les années 2000, et on a vraiment une transmission autochtone. Et ce qu'il est à noter aussi, c'est qu'en particulier chez nous, donc c'est le génotype de type 3 qui circule, et qui montre bien donc c'est un génotype autochtone. Toujours dans ce DEH, donc c'est un marqueur également indirect, on peut voir que la circulation n'est pas équivalente sur le territoire. Donc effectivement, c'est une étude sur le nombre de cas d'hospitalisation pour une hépatite E. Et donc on voit bien que les pays qui sont un peu défavorisés, c'est un petit peu comme les pays en voie de développement, c'est le Sud. donc avec en particulier la pourtour méditerranéen et la Corse. Donc pourquoi le Sud? Parce qu'effectivement il y a des habitudes alimentaires d'un côté corse avec le figatelli la saucisse de foie de la région de Toulouse qui sont des saucisses effectivement qui sont fabriquées à partir de porc cru. Hein, la salaison n'inactive pas le procédé d'assèchement, n'inactive pas le VHE. Et ce VHE donc, il circule quand même dans 65% des vaches porcins en France. Donc quand on analyse d'un peu plus près les cas groupés, parce que de temps en temps, effectivement, il y a un petit peu des scénarios catastrophes, il y a des cas groupés de VHE, donc on retrouve bien dans les sources de contamination la notion de viande de porc mal cuite, les figatelli, la saucisse de foie, mais pas que, comme je vous disais. Les coquillages sont toujours en point d'interrogation sur une source possible. Et dès lors qu'il y a des porcs dans des zones de chasse, de forêt, des sangliers, il peut y avoir donc des eaux de puits privées qui sont contaminées, qui peuvent contaminer donc, des légumes qui sont consommés crus ou moins suffisamment cuits. Et il y a également le maliportage chez les personnes exposées, hein, puisque que ce soit les éleveurs, les vétérinaires ou dans les abattoirs, les gens peuvent être donc, exposés et transporter effectivement ce VHE de manière maliportée. Les premiers cas, donc en transfusion, les premiers cas avérés de contamination en transfusion, ils ne sont pas récents, comme hein, vous pourrez le constater. Et c'est vrai que ça a été difficile en fait confirmer effectivement que ces cas pouvaient être liés à la transfusion, compte tenu effectivement de l'ampleur du virus et de la contamination par voie alimentaire, c'est que effectivement, pour être sûr que la personne s'est contaminée via la transfusion, il faut pouvoir être sûr qu'on ait la même souche entre le donneur et le receveur, ce qui n'est pas forcément toujours évident, puisqu'effectivement, chez le receveur, on constate une hépatite E a posteriori, on n'a pas forcément matière avec le donneur de pouvoir après rechercher si réellement on a la même souche ou pas. les premiers cas qui ont été décrits, donc c'était au Japon en 2004, mais ça fait un certain temps. Et puis depuis, les études se sont multipliées et donc les pays donc, ont déclaré donc, les cas avérés de transmission par voie sanguine, donc avec le Royaume-Uni en 2006 et pour nous la France en 2007, la Suède en 2015, toute une cohorte de pays européens. Et les États-Unis, donc dernièrement, en 2019, ils ont décrit leur premier cas de transmission avérée par voie sanguine. Alors, quels produits sanguins ont été impactés? Finalement, tous les produits sanguins, dans toute la littérature, ont contaminé un receveur, que ce soit les CGR, les plaquettes, et y compris les plasmas virus inactivés, donc SD ou plasma IA. Donc, on aurait pu imaginer le plasma ID. Souvenez-vous, plasma ID, donc, c'est l'inactivation du virus sur l'enveloppe. Hein, le procédé s'attaque à l'enveloppe. Là, c'est un virus non enveloppé. L'inactivation par un autosalène. Là, on n'attaque pas le virus par l'enveloppe, mais on attaque sur les acides nucléiques. Donc, on aurait pu imaginer que ça marche. Et finalement, ça ne marche pas. Si bien que ça, alors probablement, parce qu'en fait, quand vous avez un procédé d'inactivation, même quand vous attaquez à la cible nucléique, si on a une charge virale trop importante, le procédé d'inactivation ne peut pas complètement inactiver le produit. Donc c'était probablement avec des charges virales de donneurs très importantes qui a fait qu'on a contaminé également avec du plasma. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça aussi ça commence à être bien décrit dans la littérature, c'est qu'est-ce qui contamine finalement, c'est la composante plasmatique. C'est le virus donc se loge et préférentiellement dans le plasma, donc plus un produit sanguin a contenir de plasma, plus il y a un risque de transmettre le VHU. Et donc la description de tous ces cas à la fusion, donc ça a conduit à chaque pays effectivement d'étudier un petit peu ce qui se passait au niveau des prévalences dans leur population, de se commencer à se poser des questions, d'implémenter le dépistage ou pas en transfusion, en se disant bon, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait en méthode sérologique, en biologie moléculaire. Si c'est en biologie moléculaire, est-ce qu'on fait du dépistage unitaire ou des poules? Alors les poules, pour ceux qui ne sont pas forcément QPD ou habitués, donc les poules, c'est un mélange en fait homogène, en fait, à part égale d'échantillons. Au lieu de faire un test unitaire, on va mélanger à part égale des échantillons et on va tester donc l'intégralité du poule. Et si on décide de pouler, bah, quelle taille de poule? Parce qu'effectivement, plus vous allez avoir une taille de poule élevée, moins vous allez être sensible au niveau de votre technique. Et la question aussi qui reste, c'est surtout les dons ou une partie des dons. Parce qu'en fait, on a vu le VHE, vous avez quand même beaucoup de gens qui sont asymptomatiques, ça ne concerne, le risque finalement ne concerne qu'un certain type de receveur avec certains types de pathologies. Donc, déjà pour dire quelle méthode, on a vite exclu le dépistage sérologique. Pourquoi le dépistage sérologique n'est pas envisageable? Puisque vous avez vu, en fait, la majorité en fait, des sujets viriques n'ont pas forcément d'IgG et d'IgM. Plusieurs études l'ont montré. Une étude française qui, effectivement, a montré déjà que 90% des sujets qui étaient viriques, qui avaient été identifiés, n'avaient pas d'anticorps. Et une dernière étude anglaise aussi qui confirme ces données sur un nombre un peu plus conséquent de donneurs viriques où, effectivement, on n'a pas d'anticorps. Donc la sérologie, elle ne sert à rien. Puis imaginez que vous allez voir la prévalence au niveau des anticorps au niveau de la population. Ça voudrait dire qu'on exclurait à peu près tout le monde. Et donc, il n'y a pas de corrélation donc, entre le titre d'anticorps et le risque de transmission virale. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui a des anticorps anti-VHE, mais qui peut se réinfecter et donc être potentiellement contaminé. Donc, la virologie, ça ne marche pas. Donc, la seule solution, bah, c'est effectivement d'amplifier par biologie moléculaire le génome du VHE. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, effectivement, suite à deux contaminations en France de l'eau de plasma par solvant détergent, donc on a introduit en 2012 le dépistage du génome viral, du VHE, sur tous les plasmas ID, donc pour ceux pareils qui sont peut-être plus nouveaux en transfusion. Donc, c'était un plasma qui était fabriqué par l'ETS de Bordeaux, donc qui a réalisé suite à cette contamination, on est censé délivrer un plasma viro-inactivé, donc c'est vrai que ça a fait mal de dire c'est viro-inactivé, mais en fait on passe à travers le VHE. Donc on a mis en place ce dépistage dès 2012, et suite à l'arrêt de production de plasma SD, passé en statut de médicament. Donc la France a arrêté d'utiliser ce produit. Et donc on est passé en plasma IA. Et donc le VHE, donc, a été dépistage du VHE, a été reconduit depuis 2015 sur tous les plasmas IA en France et une partie donc, des plasmas sécurisés. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près à ce jour, on a 30% de la production thérapeutique de plasma en France qui est testée. Et donc ce dépistage a été réalisé jusqu'à fin 2017 à Bordeaux et il a été rapatrié sur le test de Montpellier pour justement augmenter la capacité de dépistage et surtout automatiser la méthode qui était une méthode semi-automatisée sur Bordeaux. Alors juste l'équivalence, hein, pour vous dire que par rapport au cas avéré des transmissions des différentes études, donc vous voyez, donc on a quand même des différences entre les séroprévalences des IgG et la prévalence de l'ARN dans la population étudiée. Donc comme je vous disais, par rapport à la sérologie, si on prend le cas de la France, donc en fait on a en moyenne une séroprévalence à 22,4%, mais vous avez des régions comme la région Midi-Pyrénées où on a 52% de la population donc qui porte des anticorps anti-VH. Donc tout ça pour vous dire que heureusement qu'on ne fait pas du testing sur les anticorps. Vous voyez, donc on est grosso modo, bon, alors après c'est difficile parce que les études ne datent pas, les études ne sont pas toutes réalisées dans le même temps, donc c'est vrai que les techniques ont évolué, mais vous voyez bien que donc, tous les pays européens sont concernés. Les États-Unis a priori encore un petit peu moins. Il faut savoir, bien entendu, l'étude de la prévalence, elle change en fonction des techniques. Donc, c'est pour ça aussi, par exemple, sur la France, il y a eu, les premières études avaient montré aussi un taux à 22%, y compris en Midi-Pyrénées, et une nouvelle trousse ELISA avait permis donc de trouver davantage beaucoup plus sensible, avait permis donc de montrer une prévalence beaucoup plus élevée. C'est ce qui se passe un petit peu sur l'ARN, où effectivement, vous voyez que jusqu'en 2013, on était en 96, on avait une prévalence de 1 pour 2000 donneurs à peu près. Entre 2015 et 2017, on est passé à 1 pour 1000 donneurs à peu près. On a un changement de taille de poule, on est passé d'un P96 à un poule de 6. Et depuis 2018, donc on est en poule de 6. Mais on a changé de méthode, une méthode un peu plus sensible, et c'est vrai qu'on a une prévalence qui est un peu plus élevée chez nos donneurs. Le dépistage du virus en transfusion, donc comme je vous le disais, tout le monde est un petit peu en stand-by ou à démarrer. Donc, comme vous voyez, bon là j'ai listé surtout donc, les pays européens. Donc, les premiers qui s'y sont mis vraiment, c'est le Royaume-Uni, qui a commencé en 2016. Alors, vous voyez que voilà, tout le monde réfléchit, c'est-à-dire qu'au départ, le Royaume-Uni a commencé à tester une partie donc, des donneurs et 100% des donneurs en plaquette, et ils sont partis en dépistage systématique depuis 2017. Et vous voyez que donc, pour l'ensemble des pays, des dépistages sur quelques centres, un petit peu comme la France, hein, je veux dire, on a fait une fraction en fait, du plasma depuis 2013, on a toujours un dépistage systématique en cours de réflexion, et vous verrez dans la suite de la présentation de pourquoi effectivement on est toujours un petit peu à tourner autour du pot, parce que effectivement ça a un coût, et c'est surtout que la transfusion n'est pas le seul facteur de risque, mais quand même un gros facteur de risque au niveau de l'alimentation. Donc, pourquoi c'est ce que je disais, donc pourquoi ces décisions ne peuvent pas paraître longues? Parce qu'effectivement, il y a plusieurs stratégies qui peuvent être envisagées. Est-ce qu'on fait du testing en mode unitaire? Alors, c'est vrai qu'en absolu, unitaire, c'est forcément plus sécuritaire pour le receveur. Les inconvénients, ça va coûter très cher, si on fait du unitaire, avec un bénéfice incertain. Pourquoi le bénéfice incertain? Parce qu'aujourd'hui, on sait aussi qu'une charge virale basse, elle ne va pas forcément être contaminante et qu'elle est forcément moins contaminante que charge virale élevée et qu'effectivement, on a un taux d'immunisation avec des titres protecteurs dans la population, y compris dans la population des receveurs. C'est-à-dire, sauf les gens qui sont immunosupprimés, les gens qui, quand vous voyez en Midi-Pyrénées, qu'il y a 50% des gens qui ont des anticorps, bah forcément, avec une charge virale basse, on ne va pas risquer de contaminer. Donc, c'est vrai qu'on a un bénéfice qui est quand même incertain. On peut envisager aussi le travail en poule, donc le travail coût qui va être moindre. Mais après, la difficulté, c'est de mettre tout le monde d'accord au niveau de la communauté scientifique, de dire quelle est la taille optimale du pool. Pour la taille optimale du pool, elle dépend de quoi? Elle va dépendre aussi de la connaissance de la charge virale minimum infectieuse, qui est toujours sujet à débat. Quelle est la quantité minimale qu'il va falloir pour contaminer quelqu'un? Et aussi, pour ça, bien sûr, aussi la méthode, je ne l'ai pas cité, mais ça coule de source, et ça aussi de la stratégie globale de poulage dans les laboratoires de screening. C'est-à-dire, je m'explique, c'est-à-dire, par exemple, en France, aujourd'hui, en QPD, on fait des poules de 48, des poules de 96 pour le parvovirus de 19. Dans d'autres pays, vous allez faire bien, par exemple, je vais citer l'Espagne qui fait du pour de 16 pour l'HIV. Donc, on ne va pas désorganiser un laboratoire aussi. On essaye d'harmoniser la taille de poules. On ne peut pas envisager, en fonction des marqueurs, d'utiliser des tailles de poules un peu différentes. Donc, on essaye aussi d'avoir une stratégie un peu globale, et ça concerne tous les pays. Après, au niveau des stratégies, il reste aussi, est-ce qu'on dépiste tout le monde ou est-ce qu'on dépiste une partie de nos donneurs, comme on fait aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'un dépistage partiel, si on l'étendait par exemple à donneurs de sang total, parce qu'aujourd'hui on ne fait que le dépistage sur le plasma, alors effectivement le coût est moindre, mais l'inconvénient, ben, vous savez que nos régions sont grandes, hein, les échanges de produits, c'est que vous risquez de ne pas avoir toujours le bon produit au bon endroit pour le bon patient, hein, en fonction des groupages. En particulier. Alors que le dépistage systématique, bah, clairement, l'avantage, c'est que si vous dépistez tout le monde, bah, vous avez toutes les chances d'avoir le bon produit au bon endroit pour le bon patient, surtout les patients à risque. Le coût, forcément, c'est beaucoup plus cher, alors qu'il ne concerne donc, finalement, comme on disait, qu'un certain type de patients. Le bénéfice, il est certain, et vous le verrez en conclusion après, à la fin de mon diaporama, c'est qu'il est certain, à condition de coupler ce dépistage systématique à des consignes alimentaires et d'hygiène strictes pour les receveurs à risque. Alors, une dernière petite étude pour peut-être faciliter une aide à la décision qui est sortie récemment, c'est comme je vous le disais, c'est qu'effectivement, on sait que le risque de contamination augmente avec la quantité de plasma dans le PSL. Donc, les études montrent qu'effectivement, on a une contamination qui est inévitable quand on a 5, 10 puissance 4 unités d'ARN de VHE, quand on injecte cette quantité. Et donc, vous comprenez bien, bah, forcément, cette quantité, en fonction du volume de plasma qui va être injecté, on va avoir une concentration virale et cible du donneur au départ qui va être différente. C'est-à-dire qu'il faut que le donneur ait une charge virale très élevée pour qu'on contamine un receveur avec un CGR qui ne contient que 10 ml de plasma. Alors qu'effectivement, une charge virale plus basse chez un donneur au départ va contaminer de manière plus certaine un plasma frais congelé. Donc, ce qui permet en fait de voir avec les détections théoriques par rapport aux techniques actuelles de biologie moléculaire, qui fait qu'en fait, on se rend compte que pour une dose, une forte dose dont on est sûr de contaminer, mais finalement, on se rend compte qu'on a quasiment, en faisant des poules de 96, on peut détecter le VHE pour certaines trousses, quasiment pour tous les cas de concentration, quel que soit le produit. Il n'y a que, pour certaines trousses, où effectivement, il n'y a que le P48 qui peut permettre une détection à 100% pour, effectivement, les produits qui ne contiennent que du plasma. A contrario, quand on considère la plus petite dose infectante d'ARN VHE aujourd'hui décrite dans la littérature, qui est de 7 puissance 3 unités internationales, on se rend compte que là, forcément, la problématique est un petit peu différente, puisque, effectivement, on est obligé de passer en poule de 8 pour arriver à détecter 100% donc des concentrations donc en fonction des produits sanguins transfusés. Mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire de détecter les charges virales aussi basses? Est-ce qu'elles sont réellement infectieuses? C'est la question demeure. Donc effectivement, il faut arriver à prendre son choix entre est-ce qu'il faut faire un poule de petite taille ou un poule de grosse taille pour détecter vraiment les donneurs à risque. Donc, en conclusion, bon nombre de pays européens s'orientent vers un dépistage génomique en transfusion. Je pense que c'est vrai que c'est difficile par rapport au risque transfusionnel de ne pas le faire. des questions demeurent, donc je vous disais, pour la, la stratégie. C'est est-ce qu'il faut faire donc, un dépistage systématique ou partiel pour certains donneurs à risque, et définir la taille du pool. Est-ce qu'il faut rechercher uniquement les donneurs qui ont des formes cancérales et qui, eux, ont forcément un risque de contaminer le receveur, ou est-ce qu'il faut rechercher des charges virales plus basses, sachant qu'effectivement, ces charges virales ne vont pas potentiellement être contaminantes. Et donc la conclusion, c'est qu'effectivement, il faut très probablement sécuriser les receveurs à risque vis-à-vis de ce risque transfusionnel du VHE, et que pour autant, est-ce que ça suffit? Non. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui protéger un receveur à risque en transfusant un produit hyper sécur, et à côté de ça, ne pas imposer des consignes de règles d'hygiène alimentaire. Et même en imposant ces règles d'hygiène, en traitant le problème plus en amont, on va également diminuer le risque chez les donneurs d'avoir une viremie, puisqu'on diminue le risque de contamination par le VIH. Voilà, je vous remercie pour votre attention.